Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui c'est le plus fort, le podcast d'Eurosport qui, chaque semaine, s'intéresse à des questions insolubles, on a envie de dire. Celle qui va nous animer cette semaine, elle est pas mal dans le genre. On va se demander qui est le plus fort entre deux légendes du sport français, David Douillet et Teddy Riner. Je me présente, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et j'ai trois invités de marque qui m'accompagnent pour me guider dans cette discussion. On va commencer avec Stéphane Brignot, journaliste à Eurosport et pratiquant de judo, c'est important de le spécifier. Salut Stéphane, comment ça va ?
Bonjour Cyril, bonjour à tous.
On a également Raphaël Brosse avec nous, journaliste à Eurosport, auteur du judo pour les nuls sorti en 2019 aux éditions First. Salut Raph, comment ça va ?
Salut Cyril, salut à tous. Co-auteur même du judo pour les nuls avec Fred ici présent et Lucie Décosse qu'on embrasse.
Voilà, et donc notre guest de marque pour ce débat-là, ancien membre de l'équipe de France de judo, consultant pour la chaîne L'Équipe en judo et surtout partenaire particulier d'entraînement de David Douillet et de Teddy Riner, on accueille Frédéric Le Canu. Salut Frédéric, comment vas-tu ?
Écoute, je suis beaucoup tombé sur la tête à l'aide de ma vie. J'ai peut-être un peu oublié quelques trucs, mais je pense que je pourrais me souvenir de 2-3 détails quand même.
Bon, bah super. Avant de commencer cette discussion, petit rappel pour vous qui nous écoutez en podcast. Qui c'est le plus fort et tous les podcasts d'Eurosport sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ça va de Spotify, Acast, Apple Podcasts, Deezer. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre 5 petites étoiles et à nous mettre des commentaires si vous souhaitez par exemple nous soumettre des idées de duels. On va commencer donc par ce duel XXL puisqu'on va parler de deux géants. David Douillet d'un côté et évidemment Teddy Riner de l'autre. Et je vais peut-être commencer par donner la parole à Raphaël qui a décidé de non pas défendre la candidature de David Douillet, mais en tout cas a envie de parler de David Douillet.
Oui Cyril, tout à fait. Moi je vais ici dans ce débat-là, en tout cas pour commencer, prendre la défense de David Douillet parce que finalement, bon, on connaît tous Teddy Riner, on connaît son incroyable palmarès, on connaît son incroyable série de victoires. Mais ce qu'on a tendance à oublier, je trouve, c'est que le pionnier, celui qui est et qui restera finalement à jamais le premier, c'est David Douillet. C'est lui qui a fait sauter le plafond de verre en devenant le premier Français à être sacré champion du monde chez les lourds. C'est, même si, bon, Frédéric fait non la tête, on y reviendra plus tard. C'est lui qui a été le premier aussi non-japonais à confirmer ce titre-là et à être sacré plusieurs fois d'affilée chez les lourds. Trois titres d'affilée en l'occurrence, c'est autant que la légende Yamashita. C'est aussi l'un des très rares judokas et le premier non-japonais à avoir réalisé ce fameux doublé poids lourd toute catégorie lors d'une même édition des mondiaux. C'était en 95 à Shiba, donc au Japon qui plus est. Bon, on reviendra en long, en large, en travers, peut-être aussi sur son parcours olympique. Là-dessus, il y a égalité parfaite avec Teddy Riner.
Pour l'instant, oui.
Deux titres olympiques pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, d'accord, Teddy Riner a poussé les limites et il ne cesse de les repousser. On espère qu'il les repoussera le plus loin possible. Mais celui qui a montré la voie, celui qui a fait exploser les barrières, celui qui a servi de modèle finalement à toute une génération de judokas, dont Teddy Riner, c'est David Douillet.
Alors Fred n'était pas d'accord, donc on va donner tout de suite la parole à Frédéric. Pourquoi ces hochements de tête ?
Raphaël, on a passé quelques heures ensemble, mais je vois que tu n'as pas écouté tous mes conseils. Hein.
Dis-moi,
Fred. Le premier, il y a deux grands pionniers, je suis désolé Raphaël de te le dire, il y a deux grands pionniers dans cette histoire-là. Il y a Angelo, qui est le premier Français champion olympique en lourd, et lui, c'est un des pionniers. Et il y a Jean-Luc Rouget qui monte. Ça, c'est les deux grands pionniers. Pour moi, David Douillet, c'est la continuité de ces deux pionniers. C'est vraiment un gars qui, à la différence de tous les anciens, ne s'est pas entraîné qu'en France. Enfin, David, lui, s'est entraîné qu'en France pour être champion, alors que les autres étaient obligés d'aller migrer au Japon pour devenir de très grands champions. Donc, en fait, vraiment, c'est là où David, il est différent. C'est que c'est un vrai produit made in France. Par contre, les pionniers de chez les pionniers, Raphaël, pardonne-moi, mais Angelo Parisi et Jean-Luc Rouget. Et Angelo Parisi, mon cher Raphaël, il était en quelle catégorie ?
Hein ? Champion olympique, j'ai dit le premier champion du monde, premier champion du monde français, là, je ne vais pas l'enlever.
Ouais, c'est ça, on en reparlera après l'émission.
Bon alors, est-ce que la première question qui me vient moi à l'esprit, est-ce que si David Douillet n'avait pas existé, Teddy Riner aurait pu exister? C'est un peu de la fiction, mais est-ce qu'il y a forcément une filiation entre ces deux monstres-là, Stéphane?
Non, je dirais pas forcément. Moi, je dirais, mon sentiment, c'est que déjà, c'est miraculeux d'avoir deux champions de cette envergure assez proches. On a l'impression que c'est de la normalité, c'est de l'exceptionnel. David Douillet a été reconnu grand judoka de tous les temps par la Fédération internationale. Alors après, je ne sais plus si c'était sur le 20e siècle, enfin, ce qui est un petit peu gênant, c'est de dire ça, que c'est un caractère définitif alors que Teddy Riner est passé après. Mais surtout par rapport à, c'est ça, Fred l'a dit, Jean-Luc Rouget avait ouvert la voie. On a eu une décennie formidable dans les années 80, ouverte par Angelo Parisi, mais c'était plus que ça après. Et puis, Douillet a pris la relève et lui, il a quand même accédé au statut de star parce que sa carrière s'est étalée sur 8 ans, en fait, sur 8 saisons complètes, 93-2000. Et ça, c'est génial. Et moi, je me souviendrai toujours de l'émotion qu'il nous a offerte quand il fait son salut, quand il est double champion olympique, quand il a décidé de prendre sa retraite. Il est sur le tatami. Et là, il dit, voilà, j'ai terminé mon œuvre à 31 ans. Hein. C'est l'âge aujourd'hui qu'a Teddy Riner. Donc, lui, il était usé. Voilà, c'est ça. Et alors après, on a eu Teddy Riner. C'est un autre miracle. Faut vraiment qu'on comprenne ça. Les Japonais attendent un champion du monde depuis 2003, attendent chez les lourds un champion olympique chez les lourds depuis 2008. Et nous, on est vraiment dans une période absolument dorée. C'est une bénédiction. Et spécialement aussi, je pense à cette œuvre que réalisent ces deux grands champions pour la fédération, pour les licenciés. Il y a des gamins qui vont s'inscrire au judo en septembre parce qu'ils ont vu Teddy Riner, parce que leurs parents trouvent que le judo, c'est aussi des valeurs. C'est tout ça en même temps. Et ce n'est pas que des champions juste pour eux. C'est ouais. Un sport vraiment collectif, éducatif. Et ils rendent un grand, grand, grand service au judo et au sport français en ce sens-là.
Fred, je te voyais aussi hocher la tête au propos de Stéphane sur l'influence de Riner ou de Douillet sur le judo français. Est-ce que tu partages évidemment cette analyse-là?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une influence énorme et il y a une histoire énorme avec Angelo Parisi, hein, qui est le premier français champion olympique dans la catégorie des lourds. Après, ce qui est drôle à retenir, c'est que finalement, il n'y a pas eu tant de stratégie que ça du côté de la fédération et du côté du judo français, pour les poids lourds en particulier. Ça me fait un peu penser au hockey sur glace, où c'est vrai qu'on a d'immenses gardiens qui sont partis jouer du côté du Canada. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des stratégies particulières du côté des hockeyeurs pour former les gardiens. Alors, comment on explique ça? C'est tout simplement parce que le filet du judo français, il est très large et qu'on a pris beaucoup, beaucoup de judokas différents et qu'on a récupéré, avec un peu de chance, quelques poids lourds, notamment Teddy, notamment David, qui ont été formés comme les autres et qui sont sortis un peu du panier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de vraies stratégies pour former des poids lourds. En revanche, on a trois poids lourds de légende avec Angelo, avec David et avec Teddy.
Alors, moi, je vais essayer de prendre des arguments tangibles pour déterminer entre Riner et Douillet qui est le plus fort. On parlait palmarès, effectivement, en titre olympique, ils sont exactement à égalité. Alors, Teddy Riner a été plus de fois champion du monde, 10 fois, mais c'est aussi parce que les championnats du monde sont devenus annuels. Donc, fatalement, c'est plus simple d'en remporter. En revanche, pour Teddy Riner, il y a cette série qui parle à n'importe qui et même au-delà des amateurs de judo, de 154 combats remportés d'affilée. Est-ce que ça joue fatalement plus pour la candidature de Riner, Stéphane?
Peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout parce que le record, je crois, c'était 203 victoires de Yamashita entre 77 et 85, dont 164 Ippon. Ouais. Et donc, je pense que là, ça pouvait vraiment matcher avec Teddy. Ce qui est vraiment impressionnant chez Teddy, c'est que c'est dans la constance, c'est 10 ans, aller tous les matins à la salle, à s'entraîner, à faire de la muscu, à faire de la technique, à garder la motivation, sachant qu'il avait ce point commun, il a ce point commun avec David Douillet, c'est qu'il est obligé aussi de se faire un petit peu rare, parce que autrement, il montre ses techniques dans les stages ou dans les compétitions, et c'est ce qu'il veut à tout prix éviter. Et Douillet était déjà comme ça. Voilà. Donc, sûrement que son palmarès est plus impressionnant parce que finalement, il revient une fois dans l'actualité, on sait qu'il va faire un championnat du monde, on sait qu'il va gagner. Et on se dit, quel homme extraordinaire. Voilà. Et Douillet n'était pas dans cette fréquence-là. Voilà. C'est pas exactement pareil de ce point de vue-là.
Raph, est-ce que éventuellement, qu'est-ce qui pour toi joue en la faveur de Douillet en termes de palmarès?
En termes de palmarès, donc bon, il y a ces titres mondiaux, on en a parlé. C'est plus que tout, c'est bien sûr ces deux titres olympiques, je pense qu'il faut garder en mémoire, et notamment celui de Sydney. Celui de Sydney, c'est encore plus fort parce qu'il revient de tellement loin pour être allé le chercher. Fred nous en parlera peut-être un peu mieux. Enfin, il sort de saison très compliquée. Avant Sydney, il a été blessé, il a eu du mal à se défaire de certains pépins, d'une pubalgie, de problèmes au dos. Il y a eu des résultats qui étaient quand même en demi-teinte. J'ai souvenir du champion d'Europe, toute catégorie à Bratislava. Je crois qu'il fait 7e, quelque chose comme ça. Enfin, c'était quand même compliqué. Et il réussit quand même à arriver à Sydney. Bon, il est porte-drapeau de la délégation française, donc ça rajoute quand même une sacrée pression. Et il est présent le jour J. Il se retrouve en finale face à son meilleur ennemi, quelque part, qui est Shinichi Shinohara. Il gagne cette finale. On ne reviendra pas forcément sur certaines décisions arbitrales lors de cette finale-là. Et derrière, il dit « C'est bon, les gars, j'arrête. » Je suis revenu au sommet après être tombé dans le creux de la vague. Et ça, c'est pour moi, c'est aussi ça, un vrai champion.
Il était blessé, surtout, je l'avais vu 3-4 mois avant les Jeux. Il avait un blocage au dos. Il fallait qu'il tienne une certaine posture pour éviter un blocage et d'être limité, en fait, dans ses mouvements. Il ne savait pas encore s'il pouvait même aller aux Jeux Olympiques. Il l'a fait quand même. C'était là aussi, il y avait quelque chose de providentiel, je dirais.
Ce qu'il fait à Sydney, c'est exceptionnel, Fred.
Oui, ce qu'il fait à Sydney, c'est exceptionnel parce qu'il a eu aussi un accident de moto et que c'est compliqué de revenir et que c'est des garçons qu'on. Enfin, pour moi, hein, ça va être très difficile de répondre à votre question qui est le plus fort, mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est un parallèle. Déjà, Raphaël a parlé de porte-drapeau. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que trois Français. J'ai mes notes qui s'envolent, t'as vu, je triche un peu. Mais voilà, il n'y a que trois Français qui ont été champions olympiques, porte-drapeau et champions olympiques dans la foulée. Hein. Il y a Marie-Josée Pérec, il y a David Douillet, il y a Teddy Riner. Bon, déjà, voilà, ça veut dire que c'est très difficile de les différencier parce qu'ils ont un truc en commun qui est fondamental, c'est le mental. C'est-à-dire que les mecs, c'est des tueurs à gages, c'est des Dexter du judo, quoi. Je veux dire, c'est les mecs qui ne sont pas là pour rigoler. Ils ont décidé d'être champions. Il n'y a rien ni personne qui va les empêcher. Ça, il faut déjà le savoir. Quand tu te mets face à eux, tu n'existes pas. Je veux dire, c'est des monstres. Alors nous, vous savez, en judo, on a un adage, un espèce de principe sur la performance, qui est le shin, le gi et le tai. Le shin, c'est l'esprit. Le gi, c'est la technique. Et le tai, c'est le corps. Donc, c'est le modèle de performance qu'on a, voilà, qui est lié aux arts martiaux. Si je reprends ce petit modèle-là pour faire un parallèle, au niveau du shin, de l'esprit, les mecs, c'est des monstres, c'est des tueurs. Moi, je me rappelle de Teddy qui a perdu sa grand-mère, je crois, et qui revient 2-3 jours après, qui gagne les championnats d'Europe, ou qui ne s'est pas laissé perturber. Les mecs, ils sont monstrueux. C'est un déterminisme aigu, ils lâchent rien. Et même, ils utilisent des problèmes comme source de performance. Donc là-haut, c'est vraiment des mecs très forts. Après, au niveau stratégie, puisqu'on est dans la gamberge, stratégie Douillet, c'était pas mal quand même. C'était pas mal parce que c'était un joueur d'échecs, c'était un mec qui savait bien la main gauche, la main droite, où est-ce que je vais venir t'embêter. Pourquoi? Parce qu'en judo, il y a un principe tout simple, c'est je m'impose ou je m'adapte pour m'imposer. Et là, on part sur le deuxième aspect, c'est le taille, c'est le corps. Et là, avantage à Teddy Riner. Avantage à Teddy Riner, 2m03, une machine de guerre. Teddy, il est hors du commun. Il aura pu faire d'autres disciplines. Teddy, au foot, aujourd'hui, à 160 kilos, il n'est pas ridicule. Je ne dirais pas que David Douillet était ridicule au foot. Mais David, si tu regardes cette vidéo, rappelle-toi. Hein, ce n'était pas si simple que ça, tu le sais très bien. Donc, du coup, voilà, Teddy, c'est un corps hors du commun. C'est voilà, ce qui lui a permis, donc, dans son judo, d'être hyper engagé, de pouvoir détruire l'adversaire. Et donc, du coup, d'avoir aussi une rapidité légendaire hors du commun. Il n'y a pas de mecs qui sont plus grands que lui, beaucoup. Hein. David, il y en avait quelques-uns. Teddy, il n'y en avait pas. Et voilà. Et en fait, des fois, David, il a battu des mecs plus forts que lui. C'est vrai. Teddy, je ne crois pas qu'il ait battu des mecs plus forts que lui en judo.
Justement, ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette impression-là qu'à l'époque de David Douillet, et c'est peut-être une légende urbaine, hein, mais il y avait… Je ne sais pas si c'est plus de concurrence, mais en tout cas, c'était plus romancé. C'est-à-dire que c'était un peu Douillet contre les Japonais. Le judo, c'est quand même un petit peu internationalisé, même si les Japonais restent une référence. Est-ce que ça aussi, ça joue dans la candidature, j'ai envie de dire, de David Douillet, Raphaël?
Alors oui, il y avait effectivement, surtout dans cette catégorie des lourds, c'était effectivement une vraie domination japonaise. Même si on peut quand même parler d'autres champions, il y avait des Soviétiques, il y avait aussi des Polonais qui de temps en temps parvenaient à pointer le bout de leur nez, comme Kubacki, pour parler de Polonais. Voilà, il y avait quand même de temps en temps, mais c'était vraiment des one-shots, j'ai envie de dire. Ils étaient champions une fois par cible, c'était plus compliqué la fois suivante. David Douillet, c'est le premier à avoir réussi à enchaîner les titres, de ce point de vue-là. non japonais. Mais effectivement, à l'époque, donc on est dans les années 90, le judo est moins mondialisé que maintenant. Le circuit n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on a des grands chelems, on a des grands prix. C'est quelque chose qui est très lisse, très fluide et qui permet d'être beaucoup plus aussi télégénique et facile à suivre de manière générale. Et enfin voilà, puis c'est un autre judo aussi, puisque bon, les règles ont changé maintes et maintes fois depuis. Bon, ça, c'est encore un autre débat, effectivement. Donc, non, c'est un judo beaucoup moins, moins mondialisé et peut-être moins adapté aussi au grand public aussi à ce moment-là.
Et David Douillet aussi, comme Teddy Riner, finalement, il s'est construit, c'est assez étonnant, par rapport aux Japonais, parce que c'est la nation de référence. Ogawa était en fin de carrière, mais il l'a battu. David Douillet, comme Riner, a battu Kozu Inoue, qui est un monstre sacré au Japon, une référence absolue. Ça, ça donne des frissons. Vraiment, franchement, ils ont eu de la chance d'avoir à combattre face à des combattants de cette génération. Ils sont construits par rapport aux Japonais aussi. Douillet, c'est à la fin. On retrouve Shinohara, toute cette polémique. Les Japonais ont fait des croquis pendant des semaines pour démontrer par A plus B que Douillet n'avait pas l'avantage. Enfin, ça a été un traumatisme. Et Douillet est vraiment connu certainement pour ça aussi là-bas. Et puis, Riner, de la même façon, parce que le Japon ne sait toujours pas, après des années de domination de Teddy, qui mettre en face de Teddy, à part un petit gaucher. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et pour moi, je dirais que ce qui plaide aussi pour Teddy, c'est qu'il a fait rentrer sa catégorie, je pense, dans une autre dimension de puissance, d'explosivité que n'avait pas exactement David Douillet, à tel point que j'ai regardé un petit peu, juste il y a des stats parfois qui parlent, au JO à Londres en 2012, il gagne 5 combats, dont 3 qu'il obtient à travers des pénalités, c'est-à-dire qu'il gagne à travers des pénalités. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les judokas qui sont en face de lui savent qu'ils vont être battus, et le jeu, et c'est venu aussi le jeu pour les Japonais, c'est finalement rester debout, quitte à prendre des pénalités, mais surtout pas prendre un pion qui serait un petit peu une humiliation, quoi. Et à un moment donné, on a vu dans cette période 2012, 13, 14, que ses adversaires n'avaient absolument pas de solution face à lui. En 2014, je crois que c'est contre Shishinoue, le combat se termine, il y a 2 pénalités, et les Japonais n'ont même pas la clé, la solution. Et pourtant, ils passent leur temps à scanner Teddy Riner pour ça, pour essayer de trouver la solution, ils ne l'ont pas.
Fred, tu confirmes, c'est une force de la nature et les Japonais sont sans réponse pour l'instant. Et les
autres, c'est une force de la nature, c'est comme David, en fait, les deux points communs entre David et Teddy, c'est que leur plus grand adversaire, c'est eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, David, quand il revient de son accident de moto, c'est un fou, quoi. C'est impossible. Les médecins lui disent que c'est pas possible, mais lui, il a décidé. Il devait pas poser la patte par terre, il la met, voilà. Teddy, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur plus grande difficulté, Teddy, lui, par exemple, c'est le poids. Bon, et on sait très bien que Teddy, sa plus grande gourmandise, c'est le sucre. Il monte très haut en poids. Et quand il prend Kagurin, au Tour de Paris et qui perdent, et donc cette sorte d'invincibilité, moi je suis convaincu qu'il n'est pas complètement prêt physiquement parce que c'est trop dur, qu'il a un agenda de ministre et qu'il fait au mieux et qu'il arrive qu'il n'est pas à 100% et que c'est déjà passé plein de fois alors qu'il n'était pas à 100% et que cette fois-ci-là, bah voilà, ça ne passe pas sur un Japonais qui lui a toutes les qualités techniques pour envoyer Teddy dans ses révisions. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'ils ont un grand point commun les deux là, c'est des grands droitiers qui écrabouillent. Ils aiment bien mettre la main droite loin derrière, balancer la jambe à l'intérieur sur Ochimata ou Ochi, voilà, Arigoshi sur l'extérieur. Donc, même leur système d'attaque, il est quand même commun. Ce n'est pas des mecs qui font des mouvements d'épaule, hein, tous les deux. Surtout, je sais que vous êtes des puristes et je sais que vous aimez le judo et vous avez raison. Hein. Le mouvement de Shinohara sur Douillet où David gagne en finale de ciné, Kagura-Riner, c'est le même mouvement. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, ça marche pour Kagura. Donc, en fait, ce qui est assez drôle dans le combat entre Douillet et Riner, c'est là où Stéphane a entièrement raison, ça fait encore cas de figure dans les recherches japonaises de dire non, mais Douillet avait perdu au final et tout, machin, parce que regardez, il tombe en premier et tout ça. C'est beaucoup plus clair pour Teddy, mais en tout cas, c'est exactement le même mouvement. Et la grande défaite de Riner, elle est faite sur un Japonais et surtout sur ce fait d'effacer la hanche et de laisser passer la force. Alors, je ne sais pas qui est le plus fort des deux, mais en tout cas, les Japonais essayent de laisser passer la force de la jambe pour contrecarrer et reprendre l'initiative en judo. Je trouve ça très, assez marrant.
Alors, une petite question personnelle pour toi, Fred, qui les a eus à affronter sur des tatamis. En tout cas, lequel dégage le plus de puissance ? Est-ce que c'était Teddy Riner par son gabarit extraordinaire ?
Ah, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que moi j'avais 17 ans quand j'ai affronté David, qui est donc j'avais, si tu veux, hein, j'étais une publicité pour la musculation hein, à l'époque, hein, tu vois bien. Hein, bon. Donc c'était compliqué. David, je te promets, ce que je retiens, c'était très fort physiquement et ça bougeait beaucoup moins que Teddy. C'était beaucoup plus statique. Donc, si tu veux, tu prenais un espèce d'éléphant, quoi, un bus, quoi. Tu vois, tu te mettais tout nu devant le bus, t'attendais et tu prenais David Douillet, quoi. Bon, c'était une violence physique énorme, mais aussi peut-être parce que j'étais un petit peu plus jeune. Les souvenirs que j'ai de Teddy, c'est des aptitudes physiques, tu vois, pour un lourd, pour ce qu'il avait déjà sur le corps à 120 ou 130 kilos quand il est arrivé à l'INSEP. Moi, je me rappelle de lui, il avait 15-16 ans. C'était déjà un gamin. Il tombait pas tout seul sur le dos comme un poids lourd parce qu'il était déséquilibré par le poids, si tu veux. C'était un gamin qui était déjà dans des aptitudes physiques hors du commun. Au sol, tu pouvais déjà pas le gauler, parce qu'il arrivait à placer son bassin, il avait des reprises d'appui. Donc voilà, c'était deux univers différents. Moi, j'avais un âge aussi différent, parce que j'ai 10 ans de plus que Teddy. Tu sais, c'est facile à se rappeler, hein, regarde. Teddy, il est né en 89. Moi, je suis né en 79 et Louis en 69. Tu vois, et tout le monde se rappelle des deux autres. Tu ne trouves pas ça dégueulasse, hein? Mais en tout cas, voilà. Donc Teddy, je me rappelle d'un gamin qui avait des qualités physiques hors du commun. Hors du commun.
Est-ce que, tout à l'heure, Stéphane, tu parlais du fait que les adversaires de Rinner sont parfois obligés sont sanctionnés pour de l'anti-jeu, entre guillemets. Est-ce qu'on peut réussir à faire une comparaison entre les deux? Est-ce que, au-delà d'être le plus fort, il y en a un des deux qui est plus spectaculaire que l'autre, Stéphane?
Ça, je ne suis pas un technicien du judo comme Fred, hein, clairement. J'ai l'impression quand même que David était moins une machine à hippon que Teddy a pu l'être. Même si, en fait, j'ai regardé, là, statistiquement, ils ont gagné deux championnats du monde avec 100% de hippon. Douillet en 95 chez les lourds et Rinner chez les lourds en 2011. Voilà, là-dessus, ils sont à égalité. David, peut-être, survalait un petit peu moins sa catégorie. Je ne sais pas, je dis ça avec prudence, hein, vraiment, parce que là, c'était une impression. Mais David a peut-être eu plus de pépins physiques aussi, je ne sais pas bien. Après, dire si vraiment il était moins dominant, je ne sais pas dans quel compartiment, en fait. Ce qu'il est vrai, c'est que je trouve que Teddy a été très, très bien géré. Il s'est révélé très, très jeune. Et après son premier titre, il a fait junior, senior. Et puis, il est retourné chez les juniors. Enfin, ça, je trouve ça admirable. Et après, on a dit, attention, il va falloir qu'il fasse de la muscu, il va prendre genre 10 kilos de poids, il va pas falloir le casser. Il a été bien géré aussi à ce niveau-là. Je pense que c'était vraiment une machine de guerre qui était très, très bien gérée sur toute la longueur. Et on le retrouve là, il a 31 ans. Je le disais encore, l'âge auquel a arrêté David. Ouais. Et Teddy, il a envie d'en prendre jusqu'à Paris 2024, jusqu'à 35 ans.
Alors, on a essayé de se pencher sur le cas des judokas. On va peut-être élargir un petit peu le spectre sur le cas du sportif, entre guillemets. Peut-être qu'on n'arrivera pas à déterminer qui est le plus fort, mais est-ce qu'on arrivera peut-être à déterminer qui est le plus marquant pour ce sport, qui est celui qui a le plus dépassé le cadre du judo, Raphaël? Est-ce que toi, c'est toujours David Douillet qui coche le plus de critères?
Bien. De ce point de vue-là, je vais reprendre un peu une idée que j'avance tout au début, c'est-à-dire que David Douillet, c'est, en termes de popularité, c'est le premier qui a eu une notoriété auprès du grand public qui a dépassé très largement les frontières des dojos, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bien sûr, les titres olympiques, ils sont pour quelque chose, parce que ce que les gens regardent finalement, et le moment où les gens voient du judo à la télé, surtout, maintenant non, mais à l'époque en tout cas, c'était quasiment uniquement pendant les Jeux olympiques. Et effectivement, lui, ça a été le premier à avoir une telle notoriété auprès du grand public. Parce que aussi, en plus, c'était un lourd, parce que il jouait bien le jeu avec les médias également. Enfin, il y a tout un tas d'explications, je pense. Le suite de son après-carrière, il est resté aussi très populaire par ses diverses actions. Mais là, n'est pas le propos. Maintenant, encore une fois, Teddy Riner, il a suivi les mêmes traces de ce point de vue-là également. Il est allé encore plus loin. Mais je vois que Fred veut intervenir.
Ouais, ouais. Non, t'as raison. Pour moi, si tu veux, David et Teddy, c'est une notoriété énorme. Sauf que si tu veux, il faut reprendre les choses dans leur époque. David, il correspond au développement du judo à l'époque en France. Ça veut dire que tu vois, c'est le passage aussi au milieu associatif, se développe de dingue. Il y a une montée de licenciés énorme. Et donc, du coup, David correspond à ça, tu vois, sur l'expansion du judo français, montée à 500 000 licences. Et c'est un. une pépite française, David Douillet. Tu vois, c'est un mec, voilà, il était connu partout, tout elle était respectée en France, hexagonale, Jacques Chirac, tu vois, c'était ouais. français. Teddy, c'est la même chose, sauf que lui, c'est les réseaux sociaux, c'est les connexions avec les publicités, etc., au niveau international. Et donc, du coup, Teddy Riner, pour moi, c'est la même force de frappe, sauf qu'aujourd'hui, elle correspond aux moyens techniques d'aujourd'hui. Et donc, il est connu au Japon, il est connu en Russie, il est connu partout, il prend des jets privés. Voilà, c'est une autre dimension. Voilà, c'est une dimension internationale. Mais dans leur notoriété, je pense qu'ils sont au taquet de ce qui se faisait à l'époque, à leur époque. Le prochain qui va arriver, ça va être multiplanétaire, hein, l'espace, voilà.
Stéphane, tu es d'accord avec ce comparatif?
Oui, absolument. Ce qui a été génial avec Douillet, c'est qu'il accédait au statut de star médiatique. Il s'est inscrit dans la durée, vraiment. Et puis, il a montré qu'un judoka pouvait être un vecteur de publicité fort sur la durée aussi. Et là, j'ai l'impression que Teddy s'est engouffré là, dans cette voie et a tout ravagé, quoi. Parce que là, on le voit aussi finalement comme un chef d'entreprise avec toutes les sollicitations qu'il a, toutes les implications qu'il a. Et on le voit finalement en star du sport français, au même titre qu'un pilote de rallye, qu'un Sébastien Loeb, qu'un pilote de Formule 1. Teddy a placé le sportif en judo au même niveau que les footballeurs même ou que les tennismen. Et ça, c'est pareil. Maintenant, ça s'est fait et on le doit grâce à lui. Alors évidemment, David Douillet n'avait pas exactement cette opportunité-là, mais il y est allé sur ce terrain médiatique et il avait une facilité à parler parce qu'il est devenu un politique.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une autre carrière qui s'est ouverte pour David Douillet. Moi, j'ai quand même l'impression que sans ces deux-là, le judo n'aurait pas pu devenir le sport qu'il est actuellement en France. C'est un des sports quand même très, très pratiqués. Est-ce que il y a d'autres monstres comparables ailleurs qu'en France, ou est-ce que c'est, comme tu le disais Fred, deux produits 100% français qui doivent faire la fierté du sport français, tout simplement?
Si tu veux, moi je peux pas te laisser dire que le judo français aujourd'hui c'est grâce que à eux deux. C'est
non, bien sûr que non.
Parce que tu vois, il y en a eu d'autres. Après, comme je te disais, il y a eu Gezink par exemple, tu vois, qui a été un monstre extraordinaire. C'est le premier non asiatique, non japonais à devenir champion du monde, voilà, à devenir champion olympique. Donc, si tu veux, c'est des monstres sacrés qui ont montré la voie et qui ont ouvert une forme de mondialisation, qui ont amené une possibilité. Nous, en France, on a eu de très grands champions, comme je te disais, Angelo Parisi, mais il y a eu Thierry Rey aujourd'hui sur les premiers champions olympiques. Il y a eu Jean-Luc Rouget, le premier français champion du monde, ça c'est hyper important. Donc, on a eu une équipe de France qui est partie au Japon, aussi en 64 pour les Jeux. Donc, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Ça serait vraiment, vraiment être irrespectueux de ne pas parler des femmes, bien sûr, parce que nous sommes sport mixte. Hein, et puis, bon, vous savez que je suis marié avec une ancienne championne, si jamais je le dis pas. Non, mais voilà, mais il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, quand on voit Cathy Fleury. Cathy Fleury, par exemple, championne olympique en 92, les gars, rappelez-vous quand même, hein, petite anecdote, c'est la première à faire championne de France, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. Tout sport confondu, il n'y en a pas d'autre. C'est la première, Cathy Fleury. Cécile Novak aussi. Donc voilà, on a eu d'immenses championnes, Lucie Descosses, Claire Essek-Benyenou, voilà. 4 fois championne du monde, Marie-Claire Restoux. Donc le judo français a 3 légendes avec Angelo, Teddy et David, 3 légendes de feu, quoi. Mais c'est aussi une grande histoire. Comme je te l'ai dit, si tu veux, il faut bien sûr mettre en avant Teddy et David, mais il y a plein de profs bénévoles. Il y a plein de gens qui donnent des cours de judo, voilà, parce qu'ils aiment le judo. C'est un système qui est fragile, qui en ce moment est très fragile, voilà, avec tout ce qui se passe et tout ça. Donc, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, par rapport à hier, il faut rendre hommage à ces gens-là parce que tout n'a pas forcément été réfléchi, pensé. Il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et c'est ça, le judo français. C'est la proximité, c'est les clubs de village. C'est, voilà. Alors, de temps en temps, il y a des supra-pépites qui partent, mais c'est une école voilà, pédagogique extraordinaire. Et c'est pas que des supra grands champions, c'est aussi devenir les citoyens de demain.
Je ne sais pas si on fera plus belle et plus complète conclusion que tout ça. Merci à vous trois, messieurs, pour votre participation. On aurait eu du mal à répondre à cette question, mais on remercie. D'avoir.
C'est qui le plus grand alors finalement, hein?
Bah, c'est voilà, question insoluble, mais c'est
les
questions.
C'est qui le plus fort? Bah, moi, je te dis rendez-vous Tokyo 2021.
Ouais, parce que si
Teddy gagne,
bien sûr, là-bas,
ça sera lui.
D'accord. Eh ben, rendez-vous en 2021. On refera donc un nouveau numéro. Merci à vous trois. Petit rappel pour vous qui nous écoutez en podcast. Qui c'est le plus fort est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. On vous lit, on vous écoute. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous suggérer d'éventuels sujets, à nous mettre des petites étoiles. On vous dit portez-vous bien. On vous dit à bientôt et on vous dit merci pour votre fidélité. Salut, messieurs.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.